With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Soir Info vous accompagne de 22h à minuit pour traiter, discuter, débattre des grands thèmes d'actualité. Au sommaire notamment ce soir, entre 1 et 1,5 million de personnes sont attendues dans la rue demain pour le deuxième round de la contestation contre la réforme des retraites. Perturbation, contestation dans la rue, pourrait-on passer dans une autre dimension en termes de pression sur le gouvernement dès demain? Élément de réponse ce soir. Les députés, dès ce matin d'ailleurs, ont entamé les discussions en commission des affaires sociales de ce très contesté projet de réforme. De son côté, l'exécutif durcit le ton. La première ministre affirme que le décalage à 64 ans de l'âge de départ n'est plus négociable. Cela va-t-il galvaniser les manifestants? Est-il judicieux de braquer l'opinion déjà massivement convaincue que le projet de réforme est injuste? Discussion à suivre. Et puis, on parlera également ce soir de ce sujet absolument bouleversant qui interpelle tous les parents d'élèves. Le témoignage de la maman du jeune Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé le 13 janvier dernier dans les Vosges après avoir été harcelé en raison de son homosexualité. 4 adolescents de 13 ans vont être jugés. On verra comment on peut prévenir de tels drames. Voilà pour l'essentiel du programme ce soir, développé autour de Valérie Lecâble. Bonsoir, chère Valérie.
Bonsoir, Julien.
Et journaliste, présidente de HK Stratégie. Merci d'entamer la semaine avec nous. Merci, Alexandre Devecchio, d'avoir récupéré son rond de serviette autour de la table. Rédacteur en chef au Figaro. Beau choix de cravate ce soir. Pour une
merci.
Fois, c'est important de le souligner. Karim Abrik, je vous taquine, vous le savez. Karim Abrik est parmi nous. Bonsoir, cher Karim, de la rédaction de CNews, Yoann Uzaï du service politique. Bonsoir, cher Yoann. Et bonsoir, monsieur Ferjou-Jean-Sébastien, directeur de la publication Atlantico.
Bonsoir,
les présentations sont faites. Merci. Hommage à vous. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Oui, 22h01.
L'émission.
Et oui, l'émission. Et puis surtout, saluer Isabelle Piboulot qui est avec nous pour l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, Emmanuel Macron persiste. La réforme des retraites est indispensable. Une déclaration à la veille de la deuxième journée de manifestation intersyndicale. En conférence de presse à La Haye, le chef de l'État a assuré soutenir les propos d'Elisabeth Borne. La première ministre avait déclaré hier que le report de l'âge de départ n'était plus négociable. On écoute le président de la République.
Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
Attaque au couteau à Bruxelles. 3 blessés sont à déplorer, dont un grave. L'agression est survenue vers 18h dans la station du métro Schuman du quartier des institutions européennes. L'assaillant a été interpellé rapidement par la police belge. Les motivations de ce dernier ne sont pas encore connues. Dans les Vosges à Épinal, 4 adolescents seront jugés au printemps après le suicide de Lucas, 13 ans. Le collégien, harcelé par des camarades, s'est donné la mort en janvier dernier. Sa mère s'est exprimée en conférence de presse. Selon elle, des mesures disciplinaires auraient dû être prises plus tôt par l'établissement scolaire.
Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même.
J'aurais pu faire plus.
Il aurait dû faire plus.
Oui. Oui. Ah oui, clairement. Ah oui, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon ressenti à moi.
À noter qu'une marche blanche en hommage à Lucas se tiendra dimanche à Épinal. Et puis dans l'actualité internationale, au nord-ouest du Pakistan, un attentat présumé est survenu dans une mosquée du quartier général de la police de Peshawar. Au moins 61 morts et près de 150 blessés sont à déplorer. Il s'agit pour l'essentiel de policiers. L'explosion s'est produite ce matin à l'heure de la prière. Le gouvernement a placé l'ensemble du pays sous haute alerte.
Eh bien, nous sommes de retour. Merci pour l'essentiel, Isabelle Piboulot. On marque une très courte pause et on entre dans notre premier thème avec cette réforme des retraites et cette nouvelle journée de mobilisation dès demain. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Karim Abric, Valérie Lecâble, Yoann Uzaï, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou autour de la table pour parler de cette réforme des retraites. D'abord, ce lundi marquait, avant de parler de la mobilisation évidemment dans quelques minutes, parlons du début du travail qui est colossal pour le Parlement avec l'examen en commission à l'Assemblée nationale de cette très critiquée réforme des retraites. Un peu plus de 5000 amendements examinés en 3 jours pour les 70 députés présents dans cette commission. L'opposition va essayer de négocier sur certains points, une chose est sûre. Les discussions entre les membres de la NUPES notamment et la majorité s'annoncent animées. C'est un euphémisme, d'autant qu'Elisabeth Borne est inflexible sur le fameux report de l'âge à 64 ans. Ce n'est plus négociable, a-t-elle rappelé. Lisez avec moi la dernière citation de la Première Ministre. C'était chez nos amis de France Info. Ce n'est plus négociable. La retraite à 64 ans, c'est le compromis que nous avons proposé. C'est nécessaire pour assurer l'équilibre du système. Le Président de la République abonde en déplacement à La Haye, aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il envoie un soutien à sa Première Ministre et rappelle que pour lui, cette réforme est indispensable.
Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première Ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
On élude d'abord l'image entre le président Macron et c'est le Premier ministre néerlandais.
Oui, Mark Rutte, mais vous savez qu'il lui répond.
Enfin, il y a quand même. Je pense qu'Emmanuel Macron fait quand même très attention à son image, à l'image qu'il renvoie à travers les médias. Là, non.
Oui, c'est sans doute une erreur.
C'est anecdotique.
De communication.
Une erreur de podium. Du
Premier ministre néerlandais.
C'est une erreur de podium.
Mais bon, comme je vous dis.
Parenthèse refermée.
Il lui répond, mine de rien. C'était pas un message qui s'adresse. Enfin, il s'adresse de facto aux Français. Mais dans la journée, le Premier ministre néerlandais avait dit, puisque la raison du déplacement d'Emmanuel Macron à La Haye, c'était de demander, enfin, d'essayer d'obtenir le soutien des Pays-Bas pour élaborer une loi contre la loi, enfin, de réponse à la loi américaine de subvention. Aux industries pour la transition énergétique. Et les Néerlandais n'en veulent à aucun prix. Et ce qu'a dit le Premier ministre néerlandais, c'est commencez déjà par faire une réforme des retraites et vous dégagerez les marges budgétaires, vous n'aurez pas besoin d'autre chose pour soutenir votre industrie. Donc non, mais il ne faut pas le sous-estimer.
Non, j'entends.
Dans la réalité, la réforme des retraites, elle est aussi largement conçue comme un signal envoyé et à nos partenaires ou en tout cas certains.
Et on commence à le comprendre depuis quelques semaines qu'elle est également conditionnée par les exigences européennes. Les députés, Johan, juste pour qu'on pose un petit peu le cadre là, les députés ont donc jusqu'à mercredi 20h pour se prononcer sur les milliers d'amendements déposés, dont la très grande majorité, on le sait, par la NUPES. C'est un marathon qui commence, tout simplement.
Oui, alors ce qui se passe en commission, en réalité, n'a pas beaucoup d'importance, non. Dans le sens où le texte qui arrivera...
Ça donne le ton, d'une certaine manière.
Tout oui, même. Mais le texte qui arrivera, de toute façon, lundi prochain, dans l'hémicycle, est un texte qui ne tiendra pas compte de ce qui s'est passé en commission. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros, là, c'est vraiment un tour de chauffe, et ce qui est voté ou non en commission n'a pas d'influence sur le débat qui va commencer dans 7 jours maintenant. Mais effectivement, ça va aller très vite, parce que le débat doit se tenir dans un temps limité, c'est 50 jours. En tout, là on l'a dit, 20 jours à l'Assemblée nationale. On verra bien si tous les amendements ont le temps ou non d'être examinés. Et puis on verra bien surtout si l'Assemblée nationale a, au bout de ces 20 jours, le temps ou non de voter. Parce qu'on n'est pas certain qu'il y ait un vote à l'issue de ces 20 jours. Ça, c'est quand même une interrogation importante.
Quoi d'autre qu'un vote?
Ah bah si ça n'est pas un vote, compte tenu du fait que ce soit un texte budgétaire et compte tenu de l'article 47.1 alinéa 1 de la Constitution, si les députés ne vont pas au bout de l'examen du texte au bout de 20 jours, il est de fait considéré en quelque sorte comme adopté et il va directement au Sénat. Oui. Donc on n'est pas certain qu'il y ait un premier vote à l'issue de ces 20 jours. C'est un peu particulier. Hein.
Les derniers éléments du week-end et du jour, c'est donc la Première Ministre qui s'arc-boute complètement Alexandre Devecchio et annonce que les 64 ans ne sont plus négociables. À quoi ça sert de braquer à ce point-là les Français massivement convaincus d'ores et déjà que la réforme est injuste? Est-ce qu'il n'y a pas encore un mauvais calcul en termes de communication de la part du gouvernement et de la Première Ministre?
D'une part, ça ne sert pas à grand-chose, effectivement. Et d'autre part, effectivement, je pense que c'est un mauvais... calcul, pas seulement de communication, mais un mauvais calcul politique. Sur un sujet beaucoup plus dramatique, on se souvient de Barack Obama qui fixait les lignes rouges, vous savez, sur la question de la Syrie. Si Bachar el-Assad utilisait des armes chimiques, il envahirait. Bachar el-Assad a utilisé des armes chimiques et Barack Obama s'est ridiculisé. Donc là, on est sur un sujet moins dramatique, mais en fait, le gouvernement s'enlève un élément de négociation parce que, admettons
admettons que ça tourne mal, qu'ils ne puissent pas faire passer cette loi, l'âge, après tout, pouvait être un élément de négociation. Là, si ça le devient, ça passera encore plus pour un échec du gouvernement. Donc je pense qu'il ne faut jamais fixer de ligne rouge en politique. Ça ne sert à rien parce qu'on risque d'être démenti par les faits.
Avantage pour l'instant aux oppositions qui ont l'opinion de leur côté. Regardez ce sondage qui vient le confirmer. Toujours plus de quasiment 70%, 68% des Français sondés disent non à cette réforme des retraites, 32% pour. Un autre élément de ce sondage qui est intéressant, c'est la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron et le gouvernement sera votée et appliquée, disent les Français, à 67%, à 33% retirée face au mouvement social à venir. Donc, il y a un paradoxe qui est assez amusant, j'allais dire, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, les Français ont donné leur avis contre cette réforme et pourtant ils sont persuadés qu'elle va passer. Il y a une forme de résignation latente qui est assez étonnante à analyser.
C'est la situation qu'on connaît depuis le premier jour, depuis même avant cette réforme des retraites. C'est vrai qu'elle
n'a rien à faire.
Elle est de moins en moins comprise, mais dès le début, l'opinion publique a eu le sentiment que cette réforme allait passer. Et pourquoi Elisabeth Borne, elle défend mordicus les 64 ans ? Parce qu'elle sait très bien que c'est le dur sur lequel elle, en tant que Premier ministre, en tout cas, ne pourra pas reculer. C'est la mission que lui a confiée Emmanuel Macron, de faire passer l'âge légal à 64 ans. Donc très évidemment, si elle n'y arrivait pas, elle sauterait tout simplement parce que cette réforme ne serait plus la même réforme des retraites, ça ne serait plus le même gouvernement et ça ne serait plus la même première ministre. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être qu'on entend quelques rumeurs d'ores et déjà de changement de gouvernement de premier ministre. Mais je voulais revenir deux secondes sur l'image qu'on a vue d'Emmanuel Macron avant, parce qu'en dehors de la différence de taille qui était assez frappante, on voit un président de la République française qui vit, vit son pire moment de sa vie, c'est un cauchemar. Souvenez-vous, il y a 6 ans, il est arrivé, il était tout jeune, il a dit « je vais tout changer, je vais changer toutes les lignes, tout va exploser avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir ». On est revenu dans le plus pire de l'ancien monde, avec toute la caricature qui existe, c'est-à-dire... Le président français qui est à l'étranger en train de rassurer les Européens, comme ça a été dit très bien par Jean-Sébastien. L'opinion publique qui est dans la rue contre lui. Le Premier ministre qui essaie de tenir la digue et dont on ne sait pas si elle va tenir ou pas. Et lui, ça va être quoi cette réforme ? La plus classique des réformes. Donc en fait, moi je pense que dans son esprit, je ne sais pas, c'est compliqué de se mettre dans la tête des autres, mais il n'y a absolument aucune des cases dont il rêvait qui sont cochées en ce moment.
Il y a un autre élément que vous avez omis, c'est par-dessus le marché, des oppositions plus remontées que jamais à l'image de la gauche. Écoutez Mathilde Panot et François Ruffin en commission aujourd'hui. Et on poursuit. Écoutez Valérie.
Plus vous parlez, plus le nombre de Français qui sont contre cette réforme augmente. Plus vous parlez, plus les gens comprennent que ce sont effectivement les femmes qui vont être pénalisées. C'est d'ailleurs le ministre Riester qui le dit. Plus vous faites de la pédagogie, 2 semaines de pédagogie du gouvernement, c'est plus 13 points de Français et de Françaises qui sont contre cette réforme.
Vous êtes au service aujourd'hui avec ce projet, très clairement des fonds de pension plutôt que des salariés français. Contre tous les syndicats de France, contre 7 Français sur 10, contre 8 salariés sur 10, même contre des patrons, vous vous radicalisez. Vous vous radicalisez, vous êtes aujourd'hui dans un extrémisme pour imposer cette réforme contre un corps social qui n'en veut pas, que vous brutalisez.
Les 64 ans, Jean-Sébastien, ont totalement braqué les opposants et le gouvernement a d'ores et déjà perdu la bataille du récit sur cette réforme. Et ils en ont bien conscience, ce que dit Mathilde Panot. Plus vous parlez, plus les Français sont contre. On pense qu'on veut de Mathilde Panot, mais elle a tout sauf tort, là.
Non, mais effectivement, je pense que le gouvernement a acté qu'il avait perdu la bataille de l'opinion et que d'une certaine manière, ça ne servait pas à grand-chose d'essayer de le rattraper parce que ce ne sont pas des petites concessions qui feront une grande différence. Et les 64 ans, ce n'est pas uniquement, enfin, je pense que disait Valérie, ça fait partie de l'équation, mais c'est aussi tout simplement, si vous renoncez à ça, c'est une réforme qui n'a plus aucun intérêt d'un point de vue budgétaire, puisque c'est une réforme qui est très peu ambitieuse. Donc pour économiser 13 milliards, si vous enlevez la mesure d'âge, de facto, je pense que vous devez perdre au moins la moitié, puisque l'autre volet très important est celui de l'allongement de la durée ou l'accélération du calendrier d'allongement de cotisation. Donc en réalité, ils n'ont aucune marge de manœuvre, parce que pour que cette réforme ait un intérêt à minima si elle bloque le pays, il faut quand même que ça permette de justifier, que ça fasse un peu d'économie. Maintenant, pour revenir sur ce que disait Mathilde Panot et sur les 2 sondages que vous montriez tout à l'heure, elle ne devrait pas se réjouir trop vite parce que les 2 sondages, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ils montrent effectivement que les Français sont contre cette réforme, mais ils montrent aussi qu'ils ont adopté, enfin, ou accepté l'idée qu'elle allait être votée. Et pourquoi l'ont-ils accepté ? Parce qu'ils ne veulent pas bloquer le pays.
C'est totalement
pourquoi ne veulent-ils
franchement, moi j'ai du mal à le comprendre.
Mais pourquoi ne veulent-ils
lire ce sondage?
Mais non, mais Julien, moi, je pense que c'est
très... À part la résignation, pourquoi en effet, oui, des
mais
gens anesthésiés par le
ça n'est pas que de la résignation. C'est-à-dire que le récit alternatif ne convainc pas non plus les Français. Tous les discours sur les milliardaires qui seraient responsables de tous les malheurs du monde, etc. Tous les récits des oppositions qui ne proposent rien par rapport au défi du vieillissement. Parce que la réalité, c'est que le défi du vieillissement, il est majeur. Il n'y a pas que l'équilibre des retraites. Il y a financer la dépendance, financer les surcoûts sur le système de santé. Bref, il y a tout ça. Ils n'ont rien à dire là-dessus. Et donc, je pense que ce que les Français montrent dans ce décalage dans les sondages, c'est que oui, ils sont contre cette réforme parce qu'elle n'a pas vraiment de sens, elle est très budgétaire, elle ne s'inscrit pas dans une réflexion sur l'avenir. Mais par ailleurs, aucun des discours de l'opposition ne les convainc.
Dernier mot avant la pub,
Mais je pense que aussi ils sont contre cette réforme les Français parce que bon, ils ne veulent pas non plus travailler effectivement plus longtemps. Mais le 67%, c'est aussi peut-être une sorte d'intuition qui se dit que peut-être la France est quand même en décalage par rapport à plusieurs pays à travers le monde et ils se disent oui, il y a quand même besoin peut-être d'une réforme. On n'en a pas envie, on n'a pas envie de travailler plus longtemps, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est nécessaire à changer. Donc je trouve quand même que ce chiffre est important
parce qu'on fait un peu le petit ange et le petit diable sur les épaules.
Oui, et en même temps.
Oui, mais pour le gouvernement, la passion a raison.
Et pour le gouvernement, ils veulent bloquer.
Moi, je pense aussi pour le gouvernement, il y a une chose quand même. On parle de la bataille de l'opinion pour l'instant, oui, mais le bras de fer vient de commencer aussi. C'est maintenant que ça va se jouer. Ça va être au cours des prochaines semaines. Et si le gouvernement pliait maintenant, abandonnait maintenant, il perd tout automatiquement. Alors que s'il continue, s'il reste droit dans ses bottes, s'il dit non, on va jusqu'au bout, advienne que pourra, il a quand même une chance de gagner.
Qui va plier? Qui sera responsable d'un éventuel pays bloqué? Alexandre, vous reprenez juste après la pause. On va s'arrêter un instant. On va rester sur ce contexte politique particulièrement crispé, encore 5-6 minutes. Et puis, on vous donnera toutes les infos sur la mobilisation et les différentes grèves prévues demain. À tout de suite. 22h29, retour sur le plateau de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Coupe.
Un conseil présidentiel de la politique nucléaire se tiendra vendredi, réuni par Emmanuel Macron. Il doit aider à fixer sa feuille de route pour accélérer la relance de la filière. Il sera question d'approvisionnement en combustible, de traitement des déchets. Il s'agira aussi d'établir un calendrier pour la construction de 6 nouveaux réacteurs. Dans l'actualité internationale, Anthony Blinken appelle Israéliens et Palestiniens au calme et à la désescalade après la flambée de violence de ces derniers jours. À Tel Aviv, le secrétaire d'État américain s'est exprimé aux côtés de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui effectuera une visite officielle en France le 2 février où il rencontrera Emmanuel Macron. Jair Bolsonaro envisage de rester aux États-Unis. Selon son avocat, l'ex-président brésilien d'extrême droite a demandé un visa de 6 mois. Il avait quitté le Brésil pour la Floride 2 jours avant l'investiture de Lula le 1er janvier dernier.
Et on poursuit les discussions autour de ce projet de réforme des retraites, cette journée de mobilisation demain. Et avant d'évoquer cette mobilisation et les grèves prévues, cette question, quelle est la stratégie du gouvernement ces derniers jours, ces dernières semaines pour tenter d'imprimer dans l'opinion, quand on voit que donc ces dernières heures, la première ministre dit que les 64 ans ne sont pas négociables et quand on entend également Gérald Darmanin qui fait de la NUPES l'adversaire politique numéro 1 du gouvernement en évoquant une stratégie de bordélisation, on se demande où veut en venir l'exécutif. Écoutez Gérald Darmanin.
Et je crois qu'il y a aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. C'est irrespectueux envers les classes populaires et effectivement, je crois que la stratégie de M. Mélenchon, c'est de bordéliser le pays et il faut évidemment tout faire pour éviter que cela ne soit au rendez-vous. C'est ce que font les policiers et les gendarmes dans ces manifestations. Je les en remercie une nouvelle fois et c'est ce que va faire l'Assemblée nationale très bientôt. Et on sera tous, je crois, attentifs à ce grand moment de démocratie à l'Assemblée et au Sénat.
Yoann Uzaï, quelle est la stratégie du gouvernement? De provoquer, de mettre de l'huile sur le feu dans un contexte qui est déjà particulièrement crispé?
Non, je ne crois pas du tout. Je crois qu'en l'occurrence, Gérald Darmanin, sur ce point-là, a en grande partie raison quand il dit que la NUPES veut bordéliser le pays. Oui, pardon, la NUPES veut bordéliser le pays. Je crois qu'il a raison de dire cela.
Mais dites à la NUPES qu'elle veut bordéliser le pays et vous allez voir qu'elle va vraiment bordéliser le pays.
Excusez-moi de vous dire que quand vous avez des députés de la NUPES.
C'est contre-productif, j'ai l'impression.
Mais pas du tout. D'accord. Excusez-moi de vous dire que quand vous avez des députés de la NUPES qui disent écoutez, si on vous coupe le courant, ça ne sera pas très grave. Oui, si on vous coupe le courant, effectivement, on soutiendra les coupures de courant. La bordélisation du pays, enfin concernant une partie de la NUPES, ça ne date pas de la réforme des retraites. Quand on dit qu'on va transformer effectivement l'Assemblée nationale en ZAD, effectivement, et ça participe d'une bordélisation de la vie politique du pays. Ouais, Gérald Darmanin dit, pardon, je termine, une partie de la NUPES n'aime pas le travail, quand Sandrine Rousseau dit qu'on a un droit à la paresse, quand certains disent la retraite à 50 ans pour les métiers les plus difficiles, pardon, ça fausse un peu le débat politique, me semble-t-il. Après, que voulez-vous que dise le gouvernement ? Effectivement, il y a une fermeté qui est affichée. Si Elisabeth Borne dit 64 ans, c'est non négociable, mais si elle dit autre chose, il n'y a plus de réforme, c'est terminé. Donc évidemment, elle ne peut pas dire autre chose. Imaginez qu'elle commence à dire, à la veille du deuxième jour de la mobilisation, bon écoutez, les 64 ans, c'est négociable, mais c'est fini, il n'y a plus de réforme. Que voulez-vous qu'elle dise ? Ça n'est pas possible de dire autre chose.
C'est pareil. Et c'est comme pour cette réforme d'une manière globale. Il y a une question de timing.
Mais c'est un bras de fer.
Vous êtes à la veille d'une mobilisation qui s'annonce peut-être historique.
Mais c'est
précisément
Julien. C'est
le bon moment pour le dire.
Alors, juste, on va faire le tour de plateau. Évidemment, chacun va dire ce qu'il a envie de dire. Mais juste pour aller dans le sens de Johan. D'ailleurs, c'est vous, Johan, qui m'avez alerté cet après-midi sur cette prise de parole du député jumelle du Parti communiste français. En effet, cette espèce de volonté de zadiser, entre guillemets, ou en tout cas de continuer définitivement ce bras de fer, elle est affichée. Regardez ce que disait en commission tout à l'heure le député communiste Jumel.
Si on vous coupe le jus aux 3 heures dans vos permanences, je ne veux pas vous entendre pleurer. Si on vient toquer à vos portes pour vous expliquer la mauvaise réforme, vous ne viendrez pas pleurer. Moi, j'invite l'ensemble des salariés qui sont victimes de ça à venir discuter avec les parlementaires, à venir dans nos permanences et à venir dans vos permanences expliquer ce qui se passe ici en commission et le faire dans une forme de démocratie sociale active, dynamique, interactive.
Très
de
bien.
Le faire droit dans les
Très
yeux.
Bien, monsieur.
En effet, quand on entend des propos comme ceux-là, c'est vrai que cette zadisation annoncée de l'Assemblée est en train de prendre forme.
Non, mais c'est
moins qu'on puisse dire.
Je suis tout à fait d'accord que...
Comment réagir à des propos comme ceux-là ?
Non, mais je suis tout à fait d'accord que Gérald Darmanin a raison sur le fond. Et quand il dénonce le fait que la valeur de travail n'est pas respectée dans ce pays, qu'il est bien placé parce que lui, il a gagné son poste à force de travail, de mérite, et on connaît l'histoire de sa mère qui a dû bosser jusqu'à 67 ans parce qu'elle était femme de ménage, elle est toujours d'ailleurs. Tout ça, il a raison sur le fond. Mais le mot bordélisation, le problème, c'est que la Macronie, d'une façon générale, a commencé par le premier d'entre...
Johan a très bien démontré, mais quand vous entendez... Moi, je voudrais qu'on avance en même temps que les éléments qu'on entend, Valérie. Mais... Quand vous entendez ce député jumelle dire « les 2-3 heures de coupure de courant, vous n'allez pas nous embêter
Julien,
avec ça », ça, c'est de la bordélisation, mais en effet, là, c'est vrai qu'on ne peut pas dire autre chose.
Quand on est dans l'opposition, on est là pour se faire remarquer pour les petites phrases, et la preuve, c'est que ça a marché, parce que Johan vous a dit « prenez cet extrait parce que vous avez vu comment il parle ». Et en revanche, quand on est au gouvernement, quand on est aux affaires, on a une responsabilité. Et on n'est pas là pour aller taper les autres. On est là pour essayer de faire consensus. On est là pour essayer de réunir. On est là pour essayer de faire passer quelque chose.
Réunir quoi, vous plaisantez. De quelle manière vous voulez discuter avec des menaces qui sont inacceptables ? Inacceptable, Valérie.
Donc
le ministre a raison de le dénoncer.
Mais moi, suis d'accord avec ce qu'a dit Julien. C'est que c'est contre-productif d'utiliser ce mot de bordélisation parce que ça braque les gens. Leur objectif,
et en même temps, vous êtes dans un bras de fer. Je suis partagé, je pose la question, j'ai pas d'avis forcément, mais...
Attends, je termine juste, mais l'objectif, c'est juste de faire passer la réforme. On n'est pas sur un plateau...
Justement,
plateau de télévision d'Armanin en train d'essayer de convaincre
Valérie,
la personne.
Le calcul est là, c'est une stratégie.
Évidemment,
je vais vous dire, de toute façon, le péché originel, c'est les 64 ans. Je ne sais même pas pourquoi le gouvernement a mis en avant cet âge de départ. Il suffisait de concentrer la réforme autour des annuités. 43, 44 annuités. Et là, chacun voyait bien sa force en fonction de l'âge auquel il a commencé à travailler.
Je pense qu'il leur fallait un marqueur pour dire qu'il y avait une réforme.
Mais vous avez braqué toute l'opinion.
Et ensuite, je pense, comme Jean-Sébastien Ferjou, que c'est une stratégie, voire que Gérald Darmanin, pardon, je vais peut-être choquer Ioan Mizrahi, mais souhaite la bordélisation, parce que être plus, qui est peut-être plus détesté par une partie de l'opinion que la Macronie, LFI. Et donc, ça leur permet d'avoir voilà, un adversaire caricatural face à eux. C'est un peu la faute des autres oppositions qui n'ont pas de contre-discours à proposer, mais je pense que ça permettrait au gouvernement de jouer la carte du parti de l'ordre. Donc, s'il y avait vraiment le bordel au cours de cette de certaines manifestations, je pense que ça réjouirait en partie le gouvernement parce que ça leur permettrait effectivement de retourner peut-être l'opinion. Je pense que Gérald Darmanin mise là-dessus, il veut une opposition violente, caricaturale de LFI pour pouvoir incarner l'ordre, le travail, etc. Moi, je trouve que c'est un jeu de rôle globalement caricatural que ce soit du point de vue de LFI ou du point de vue du gouvernement.
Encore une prise de parole politique pour alimenter le débat. Marine Le Pen, écoutez.
Je crois qu'elle ne devrait pas trop s'avancer. Parce que, parti comme c'est, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée. En tout cas, nous, on fera tout pour qu'elle ne le soit pas. Tout pour convaincre, y compris des élus qui sont d'autres groupes, de ne pas se fourvoyer dans cette réforme aussi injuste que brutale et inefficace.
Le problème, c'est que le gouvernement s'est trompé sur la méthode, s'est trompé sur le timing et se retrouve dos au mur.
Oui, mais je crois que c'est vraiment une stratégie. Les propos de Gérald Darmanin, il est tout sauf néophyte en politique. Donc il assume ces mots-là parce qu'ils veulent... J'ai envie de vous dire, si on est très cynique, peut-être ont-ils été quasiment déçus qu'il n'y ait pas plus de heurts dans les manifestations jusqu'à présent. Mais là, ils essayent
de pas dire ça. En plus, vous avez des renforts de policiers demain. Vous avez des renforts de forces de l'ordre.
C'est la stratégie. Je vous dis pas qu'ils l'ont souhaité ni qu'ils auraient fait en sorte de provoquer.
Si, vous le dites un peu, Jean-Sébastien.
Après que ça passe tranquillement.
Écoutez.
Tout ce monde-là.
Je suis d'accord avec Jean-Sébastien.
Pardon, c'est comme ça qu'ils sont sortis des gilets jaunes. Donc, je pense que quand vous en êtes sorti une fois, vous avez la tentation de le faire une deuxième fois. À partir
du moment où ils sont sortis des gilets jaunes,
laissez finir Valérie.
La situation, c'est celle-là. Ils sont sortis des gilets jaunes en misant sur le réflexe du parti de l'ordre. Donc je pense effectivement qu'il y avait deux attentes. L'un, il pensait que les Français seraient résignés. Et par ailleurs, il pensait que des images de Black Blocs, ça ferait aussi basculer les Français dans la résignation ou du côté du parti de l'ordre. Mais je pense que ces mots-là, précisément, ils visent autre chose. C'est le parti de l'ordre économique. Parce que dans la mesure où on a entendu mais des discours tous plus délirants les uns que les autres sur les milliardaires, comme s'il suffisait de supprimer les milliardaires pour que la France n'ait plus aucun problème ou que les pauvres disparaissent parce qu'il n'y aurait plus de milliardaires, je pense qu'ils veulent incarner ça, le parti de l'ordre. Non pas, là, pour le coup, celui par rapport au désordre dans la rue, le parti de l'ordre économique, en disant les Français ne veulent pas sortir du système capitaliste. Et je pense effectivement qu'une majorité de Français ne veulent pas sortir du système
capitaliste. Alors justement, écoutons les Français. Et Johan, vous reprenez. Les Français sur cet âge de départ à 64 ans non négociable.
C'est peut-être dur de le dire comme ça. Peut-être qu'il faudrait négocier un peu plus, être plus souple. Parce que c'est vrai que les gens n'aiment pas qu'on leur impose des choses.
Je crains que la pression de la rue ne l'oblige peut-être à changer d'avis.
Je ne connais pas toutes tous les tenants et les aboutissants de la réforme, mais si elle dit que ça sera sans équivoque, c'est un peu, ça paraît un peu radical, quoi.
Pour moi, il faut qu'elle tienne. C'est juste une question de temps, que de toute façon, si ce n'est pas maintenant, ce sera dans 3-4 ans, il va y avoir des réels problèmes au niveau de la retraite. Donc pour moi, c'est une mesure qu'il faut prendre maintenant.
Résignation. Et pourtant, l'affaire est mal engagée pour le gouvernement. C'est le paradoxe de cette séquence.
Mal engagée pour l'instant, effectivement. Il n'a pas le soutien de l'opinion et il ne l'aura pas. On verra bien s'il a le soutien politique d'une majorité à l'Assemblée nationale ou pas. C'est l'enjeu des débats, on le verra. Mais je veux revenir sur ce qu'ont dit quand même Jean-Sébastien Ferjou et Alexandre Devecchio, parce que si je les écoute, on est à deux doigts de se dire que le gouvernement est en train d'organiser la bordélisation du pays, pour reprendre les propos de Gérard Darmanin.
Ça n'a rien à voir avec ça. Laissez Johan s'exprimer.
Je sais quand même ce que j'ai dit, moi, pardon.
Bah, moi, je l'ai entendu aussi.
De dire non, mais c'est pas ce que j'ai dit.
Alors, redites-moi, vous pouvez le faire en 10 secondes.
J'ai dit que je pense qu'ils étaient presque déçus qu'il n'y ait pas eu, mais être déçu, ça n'est pas la même chose que d'organiser.
Non, mais être déçu, pardon, mais si le gouvernement avait souhaité la bordélisation du pays, le préfet de police de Paris n'aurait pas tout fait pour que ça se passe bien, parce que c'est grâce aux forces de sécurité sous l'autorité du préfet de police, qui est lui-même sous l'autorité de Gérald Darmanin, que la sécurisation de la manifestation a été quasiment parfaite la dernière fois. Donc permettez-moi de vous dire que rien ne vous permet de dire précisément que le gouvernement se serait satisfait d'une quelconque manifestation violente, me semble-t-il, parce qu'au contraire, les forces de sécurité ont été parfaitement positionnées, ont été parfaitement proportionnées pour que ça se passe bien.
Seront renforcées
demain. Donc c'est à mettre quand même au compte du gouvernement, me semble-t-il.
Justement, venons-y. Donc la France qui retient son souffle avant le deuxième round des manifestations contre cette réforme. Au moins 1 million de personnes sont attendues dans les rues, dans plusieurs villes de France et évidemment notamment à Paris. Les transports seront quasiment bloqués. Quels sont les secteurs qui sont les plus mobilisés? Regardez ce sujet préparé par Sarah Fenzari.
Une nouvelle journée noire est à prévoir. Dans les trains, les voyageurs sont invités à reporter leur voyage. La SNCF prévoit un trafic très fortement perturbé. 2 TER sur 10 et seulement 25% des TGV circuleront. Dans le métro parisien, seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement. Un métro sur 4 sera en service. Les bus et les tramways, eux, seront peu impactés. Ce sera aussi compliqué dans les aéroports. Air France va annuler un vol court et moyen courrier sur 10. Les liaisons long courrier ne seront pas affectées. Dans la fonction publique, les mairies comme celle de Paris ou Montreuil garderont porte close, tout comme les écoles. FSU prévoit 50% de grévistes dans le primaire ce mardi. Déjà très suivi le 19 janvier dernier, plusieurs autres syndicats ont appelé à la grève, avec une volonté d'amplifier le mouvement. Un mouvement qui va par ailleurs être suivi dans le secteur de l'énergie. Les grévistes d'EDF devraient à nouveau faire baisser la production d'électricité dans les centrales nucléaires, sans pour autant provoquer de coupures de courant. 240 cortèges sont prévus dans toute la France, où 1,2 million de manifestants sont attendus, dont 100 000 à Paris.
On a bien compris que ça s'annonce très compliqué pour circuler. Comment allez-vous vous organiser? Question posée aux Français dans la rue aujourd'hui.
Mon train a été annulé, donc j'ai choisi de partir aujourd'hui, pour être sûre. Il n'y avait plus d'autres trains disponibles dans la journée.
Je comptais rester à Paris aujourd'hui et partir chez moi demain. Et comme il y a grève à partir de 19h, je rentre chez moi ce matin.
J'ai dû reporter mon TGV aujourd'hui pour pouvoir y aller sans avoir de train et de changement d'horaire à prévoir pour mardi.
Ce soir, je dois rentrer tôt justement pour garantir de rentrer chez moi. Et demain, ce sera du télétravail pour sûr.
Perturbation, contestation dans la rue, bataille politique, le ton qui se durcit de part et d'autre. Valérie, on pourrait passer dans, je disais en sommaire tout à l'heure, dans une autre dimension en termes de pression sur le gouvernement demain.
Bah écoutez, on va voir demain comment ça se passe et surtout les jours d'après.
Comment vous la voyez, vous, cette journée demain?
Des blocages. Mais écoutez, je suis très intéressée par les micro-trottoirs que vous venez de faire parce que ils ont l'air complètement fatalistes. Les gens, ils sont pas du tout en colère. Ils sont en train
de
s'organiser.
C'est le sondage de tout à l'heure. On y revient. Hein, c'est la résignation. Hein.
Non, mais attendez, il y a aucun problème. Moi, je vais rentrer chez moi plutôt. Ah ben, finalement, je vais rester là. Ah ben, je vais être en télétravail.
C'est pas comme si c'était une première. Hein,
non, mais c'est intéressant.
Une journée isolée, c'est pas pareil qu'un blocage.
Mais c'est ce que je dis, c'est que pour l'instant. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que pour l'instant.
Les gens ont anticipé.
Chacun est dans son rôle.
Il y a une part d'adhésion grande aussi.
Il y a les syndicats,
c'est pour ça que vous entendez les gens comme ça.
Il y a des gens qui manifestent, et puis il y a, je ne sais pas qui disait, 1 million de personnes, la population active, si c'est une trentaine de millions de personnes, ça veut dire qu'il y en a 29 millions qui ne sont pas dans la rue quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il y a une majorité passive qui vit avec cette situation et qui attend de voir ce qui va se passer. Donc, je pense que c'est très compliqué d'anticiper.
On parle d'une semaine test, Alexandre, parce que les syndicats aussi, un petit peu, sont sur une ligne de crête. La mobilisation, c'est bien. Paralyser le pays, ça peut aussi retourner l'opinion dans l'autre sens. Tout le monde est un petit peu en train de se regarder en chien de faïence.
Moi, je crois que simplement, les syndicats n'ont plus les moyens, peut-être, de bloquer le pays comme avant, parce que souvent, ils finançaient en réalité les grèves.
Et on va revoir, pour les gens qui nous regardent, les différentes.
Il y avait une caisse pour ça. Ils n'ont pas les moyens et donc ils font ce qu'on appelle une grève perlée. Moi, je doute de l'efficacité de ce type de grève parce qu'effectivement, ça ne perturbe pas assez. Je suis pas syndicaliste, mais je crois que hélas, le meilleur moyen pour faire plier un gouvernement, c'est effectivement de bloquer le pays. Là, si c'est une grève par semaine, les gens s'organisent surtout avec le télétravail. Et donc, c'est pas à mon avis.
Ça va monter en puissance.
Le meilleur moyen d'avoir gain de cause.
C'est le but des syndicats que ça monte en puissance. C'est tout le débat CGT, CFDT. C'est là que la scission peut se faire entre les syndicats.
Sauf s'ils n'ont pas les moyens de monter en puissance. Juste un mot sur la résignation, parce que je trouve ça intéressant des Français. Sans doute, l'opposition n'est pas à la hauteur, il n'y a pas d'alternative. C'est pour ça que les Français acceptent par résignation. Mais je crois que c'est plus grave dans le malaise. Je crois qu'il y a un vrai malaise dans la démocratie, qu'il y a une partie des Français qui ne croient plus à la démocratie, qui se disent, après tout, à chaque gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, il y a une réforme des retraites. Hein. Je vous indique, depuis 95, il y en a eu 6 de réforme des retraites. Donc c'est toujours la même politique qui est menée. Je pense qu'il y a quand même une partie des Français qui se détache de la politique en se disant que c'est une affaire d'énarques, de technocrates, que quoi qu'ils votent, ça ne changera rien. Et donc là, il faut se méfier de ça parce que c'est pas bon dans un pays quand on ne croit plus au système démocratique.
Clairement, ouais.
Non, mais c'est-à-dire, effectivement, il y a quand même deux écoles de pensée, pour revenir là-dessus, là, sur la question des syndicats aussi, deux écoles de pensée, le côté très radical et l'autre qui disent, ben c'est le succès de ces manifestations, ça va être justement sur l'engouement et sur la durée. Cela dit, je comprends pourquoi le gouvernement ne décide pas de flancher tout de suite. Il n'a aucun intérêt à faire ça. Moi, je pense qu'il a intérêt, au contraire.
Le macronisme est en jeu.
Au contraire, il a intérêt maintenant à utiliser l'autre stratégie parce qu'il était sur la défensive les derniers temps, il encaissait les coups, il semblait très faible et maintenant c'est l'inverse. Je pense qu'il va avoir plutôt justement ce côté offensif et de dire on va aller jusqu'au bout. Et quand il présente, quand on parle de bordélisation, il a choisi, Gérald Darmanin, oui, ce mot expressément. En fait, il veut mettre ça dans la tête des Français que c'est le chaos si jamais on suit l'opposition, on suit les syndicats. Et eux, eh bien oui, ils vont jouer sur à la fois la fermeté et la compréhension. Nous serons fermes, nous serons responsable, mais nous comprenons, on comprend les Français. Allez manifester, on comprend, c'est difficile. Nous aussi, on trouve ça difficile de faire cette réforme, mais on n'a pas le choix. Mmh. Donc, on vous comprend, mais on va se placer dans le rôle du père, hein, le côté paternel, sacrificiel. C'est difficile, on mange les coups symboliques, mais on est responsable, on est l'autorité. On va faire passer cette réforme parce que c'est pour votre bien.
Oui, bah oui. Oui, mais, voilà. Juste un mot de sécurité, parce qu'on va pas, on a d'autres sujets à traiter, même si celui-ci est évidemment majeur. La sécurité demain, pour cette mobilisation un peu partout en France, le renseignement territorial qui prévoit des cortèges, a priori sans violence, et bah, réjouissons-nous, dans 240 points du territoire, tout en gardant toutefois un œil sur le phénomène d'ultra-gauche qui pourrait de nouveau constituer des black blocs et semer la zizanie dans les rues des différentes villes. Regardez le point sur la situation avec Amaury Bucco.
11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur l'ensemble du territoire. 4 000 à Paris, c'est un peu plus que pour la précédente manifestation qui avait eu lieu le 19 janvier dernier. Là encore, hein, la manifestation devrait être d'une certaine ampleur, hein, puisque 1 million de personnes pourraient se mobiliser un peu partout en France. 250 actions ont été déclarées sur tout le territoire. Et puis à Paris, les autorités tablent sur 80 000 à 100 000 manifestants. La mobilisation devrait également concerner de nombreux lycées, puisque plusieurs syndicats de lycéens ont appelé à manifester. Et puis enfin, à surveiller l'ultra-gauche, déjà présente dans certaines villes lors de la présente manifestation, qui pourrait venir à nouveau perturber certains cortèges.
Demain, j'ai l'impression, d'abord sur les villes moyennes, parce qu'elles sont aussi un petit peu le baromètre de la contestation, et puis sur les lycéens, les étudiants qui pourraient ajouter également à la mobilisation et qui pourraient également renforcer cette ampleur de phénomène et de contestation.
Oui, et c'est là qu'on verra quelle est aussi l'influence des syndicats, parce que les syndicats, et notamment la CGT, ont adressé beaucoup de messages ces derniers jours aux étudiants, aux lycéens, en leur demandant parfois de bloquer leur lycée, de se joindre à la mobilisation et au cortège. Donc on verra si ces messages ont été entendus. Les villes de province, vous l'avez dit, parce qu'il n'est pas non plus commun d'avoir des grandes mobilisations en province. Là, on avait vu la première fois que des villes, y compris des petites préfectures, comme Mende, je pense à Mende, qui est la plus petite préfecture de France en Lozère, eh bien, il y avait eu une mobilisation très importante la dernière fois. Donc là, manifestement...
Et il y a une vigilance particulière sur ces villes moyennes, 50, 100 000 habitants.
Ah, absolument, on va bien regarder ce qui est en train de se passer dans ces villes aussi. Si la contestation grandit, on regardera le cortège parisien, bien sûr, avec insistance pour là, les questions de sécurité que vous avez évoquées. Et puis, on regardera de quoi est composé le cortège, de quoi sont composés ces cortèges. Il y avait beaucoup de primo-manifestants lors de la première mobilisation, des personnes qui n'avaient jamais manifesté. Donc ça, c'était un signal important aussi envoyé au gouvernement. On verra, là, cette fois, si la jeunesse y prend davantage part.
Gros dispositif, évidemment, toute la journée sur CNews. On vivra toutes ces mobilisations un peu partout en France en direct. Oui, dernier mot, Valérie, avant de passer à tout autre sujet. Non.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on vit la première grève et la première manifestation post-Covid, en fait. Et pendant presque 2 ans, les Français ont vécu enfermés chez eux et la France a continué à tourner quand même et les gens ont continué à travailler. Et je me demande si ça n'a pas complètement tout changé. C'est-à-dire que si, effectivement, ce que vous dites, se passe, c'est-à-dire qu'il y a des manifs, mais qu'il n'y a pas de désordre,
les trucs SNCF, RATP,
de gens qui se tapent dessus, mais que ça se passe dans l'ordre et la sécurité, ça devient très compliqué pour les syndicats et pour les manifestants d'obtenir ce qu'ils veulent. En 95, souvenez-vous, les Français étaient exaspérés parce que tout le monde allait travailler, les gens ne savaient pas comment aller travailler. Et ben maintenant, avec le Covid, on s'est organisé et c'est devenu très très difficile de bloquer un pays.
Je suis d'accord, mais moi je fais quand même une distinction entre le blocage et la bordélisation. Je pense que les Français n'aiment pas la bordélisation, les violences, etc., le côté ZAD de LFI. Le blocage, ils n'aiment pas ça non plus, mais c'est quelque chose qui est mieux compris par l'opinion. En 95, ça a bloqué et l'opinion a suivi les syndicats. Mais moi, je crois vraiment que les syndicats ne font pas parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire, encore une fois. Ils sont moins riches qu'avant, ils ont moins d'adhérents. Et en période d'inflation, eh bien, il faut suivre une grève. Ça coûte de l'argent à ceux qui font grève.
Et encore une fois, juste un mot, la bordélisation, elle n'est pas que... Enfin, ce que visait Gérald Darmanin, à mon avis, c'est pas que ce qui se passe dans la rue. C'est la bordélisation au sens de mettre le bordel dans le pays, dans l'organisation du pays, dans son économie. Et on est dans une grande panne d'avenir. Les Français sont angoissés, ils ne voient pas dans quoi se projeter. Et c'est là où la bataille, la pièce, elle est malgré tout en l'air, parce que le gouvernement a perdu la première manche et effectivement il était sur la défensive, il repasse à l'offensive, le discours alternatif, ça serait quoi un modèle alternatif? Eh bien les syndicats en l'état ou la France insoumise, ils n'ont pas convaincu les Français qu'ils avaient un discours alternatif.
Et pour info, les gens qui nous suivent peuvent revoir donc le trafic RATP en Ile-de-France demain, n'hésitez pas évidemment à prendre vos précautions si elles ne le sont pas déjà, le trafic SNCF également avec un train sur trois pour les ABHU, un train sur 4 RERK, alors que là on est sur le trafic des TGV, 2 sur 5 axe nord, 1 sur 2 à l'est, 1 sur 4 Atlantique, 1 sur 2 Sud-Est. Vous voyez la suite, 2 TER sur 10 et aucun train intercité demain en France. Voilà pour cette journée de mobilisation qui nous tiendra en haleine évidemment demain mardi 31 janvier. Ce sujet désormais auquel on vient, bouleversant, qui interpelle tous les parents d'élèves et même bien au-delà bien sûr, le témoignage de la maman du jeune Lucas. Lucas, c'est ce gamin de 13 ans qui s'est suicidé le 7 janvier dernier dans les Vosges après avoir été harcelé en raison de son homosexualité. 4 adolescents de 13 ans, 2 garçons, 2 filles, vont être jugés pour harcèlement ayant conduit au suicide. Et sa maman, dévastée, tenait aujourd'hui une conférence de presse alors qu'une marche blanche d'ailleurs aura lieu dimanche à Épinal à 14h. Écoutez cette maman en longueur.
J'ai la mémoire de mon fils. Pour lui rendre le plus beau des hommages, parce que c'était un super petit garçon, en fait. Et voilà, il vit à travers cet hommage, il vit à travers nous. Et voilà, je veux pas qu'on l'oublie. Et puis voilà, c'est notre manière à nous de le maintenir en vie.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre fils ?
Je suis désolée parce que j'ai pas pu le sauver. Et que personne n'a pu le sauver, en fait. Ça fait 3 semaines et voilà, on réalise toujours pas. Et la colère, elle va être mise à bon escient. Elle va être, on va mener le combat derrière et on va pas s'en prendre à qui que ce soit. On va pas pointer qui que ce soit. Ça c'est clair parce qu'on a, voilà, on est quand même assez mature. Hein, enfin, on a autre chose. Lucas n'aurait pas voulu ça. Arrêtez, mettez-vous à la place derrière des harcelés et réfléchissez au mal que ça fait. Ça peut faire, même une parole et tout, ça peut faire beaucoup de mal à certaines personnes. Et il y a d'autres manières de parler, de communiquer. Enfin voilà, on est libre. On est tous libres, en fait. Que ça plaise ou que ça plaise pas, on est tous libres.
Alexandre Devecchio, il y a un problème d'éducation profond dans notre pays. Et cette mère, cette famille en a payé le prix fort.
Oui, je crois que vous avez raison de prendre le sujet comme ça. Je pense qu'on ne peut pas décorréler la question du harcèlement, de la question de la bordélisation, justement, dans un certain nombre d'écoles, et même plus que de la bordélisation, de la violence, des effets de meute.
On ne peut plus accepter que des enfants harcelés dans ce pays se donnent la mort de cette façon. C'est inacceptable,
mais ça fait réfléchir, encore une fois, à la question de l'autorité dans l'institution scolaire. Je pense qu'il y a une trop grande tolérance de la part de l'institution pour ces comportements Là, en réalité, peut-être aussi, je pense, un réflexe pas de vague qu'on voit sur d'autres questions, sur la question du communautarisme, etc., de dire « Ah, c'est des moqueries,
etc. » Est-ce qu'on peut lier ça, franchement ? Est-ce qu'on peut lier ça
Si, parce que les proviseurs n'aiment pas faire remonter les violences. Il y avait d'ailleurs un sujet dans CNews, un proviseur qui disait les profs faisaient grève. Le proviseur disait « Non, mais c'est pas un établissement violent. » Donc, je pense qu'il y a ça.
C'est dingue, les chiffres qu'on a sous les yeux. Un élève sur 10, globalement, est touché par le cyberharcèlement.
Ouais, et je pense qu'il y a peut-être aussi une sous-estimation. On peut se dire que c'est des moqueries, etc. Or, il y a les effets de meute dans la société, de lynchage collectif. Moi, je m'en méfie beaucoup. Et souvent, les plus jeunes, les enfants, sont dans cette démarche-là. Quand on est à l'école, il y a un effet de groupe. Et donc, je pense qu'on devrait être plus... Les adultes devraient être plus attentifs à
ça. Les parents ou le système éducatif tout,
à la fois, à la fois,
pointé véritablement du doigt dans cette séquence.
Parce que l'éducation, c'est d'abord... j'ai envie de dire un problème de parents, mais enfin ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement doit être quand même signalé et qui a été a priori signalé par cette mère, doit être prise en compte quand même par les chefs de l'établissement et les élèves doivent être punis. Encore une fois, il y a une question d'autorité. Alors là, ils vont être jugés par la justice.
Comment d'ailleurs? Comment on juge des gamins de 13 ans?
C'est très compliqué de les juger, mais
on va y venir parce que je voulais chapitrer ce...
C'est bien qu'il y ait ce procès-là, mais sans doute ça aurait dû être fait avant dans le cadre de l'institution.
13 ans. Moi, franchement, j'ai aucune idée de la façon dont on peut juger des enfants de 13 ans, même après avoir commis des actes comme celui-là. Avait-il conscience de l'escalade que ça pouvait provoquer? J'ai absolument aucune réponse là-dessus. En même temps, je suis pas magistrat, donc c'est pas plus mal. Juste sur cette responsabilité, les parents, l'école. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez entendu cette maman aujourd'hui, j'ai trouvé particulièrement digne. Elle met aucune huile sur le feu. Elle n'a aucune violence en elle. Et oui, elle pointe d'une certaine manière l'école du doigt, mais sans montrer une quelconque agressivité. L'école aurait dû en faire plus. Elle le dit tout de même. Écoutez-la.
Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même. Il aurait pu faire plus. Ils auraient pu faire plus.
Ils auraient dû faire plus.
Oui. Ah oui, clairement. Ah oui, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon ressenti à moi.
Ils auraient dû faire plus, dit-elle, avec cette colère un peu froide. Elle avait fait des signalements au collège de son fils avant qu'il ne se suicide. En effet, elle peut légitimement être en colère contre l'établissement. Elle est responsable.
Avant de parler des responsabilités, moi je voudrais juste dire un mot sur l'histoire elle-même, que je trouve quand même, parce qu'on est passé directement sur les responsabilités, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du sujet quand même, un gamin de 13 ans qui se suicide, que sa mère retrouve de cette façon-là. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, parce que je ne sais pas si on a des statistiques là-dessus, mais il y en a beaucoup.
Malheureusement. Oui. Alors, en termes de suicide, je ne sais pas, mais en termes de harcèlement, c'est exponentiel.
En tout cas, il y en a vraiment beaucoup trop. Alors moi, une fois qu'on a dit ça, pour moi, il y a deux responsabilités très évidentes. Oui, l'école, forcément, parce que ça se passe à l'école et que forcément, il faut mettre en place des systèmes d'alerte. Là, en plus, la mère, elle dit qu'elle a prévenu l'école, qu'elle a signalé, etc., qu'il n'y a pas eu de réaction assez forte. Donc ça devrait être alerte rouge et priorité absolue de prise en charge, de mettre en place des cellules de veille.
Il y a le numéro vert, hein, d'ailleurs, qu'on peut montrer. Je ne sais pas si on l'a enregistré, 30-20 pour signaler une situation de harcèlement entre élèves.
Une grosse, grosse responsabilité de l'école, ça c'est sûr. Merci. Et puis après, le deuxième sujet, il est plus compliqué, personne ne sait quoi en faire, mais c'est cette histoire de réseaux sociaux, effectivement, sur lesquels il y a des cabales entières qui se montent contre des enfants, des groupes qui se forment.
Mais il n'y a pas que ça. Hein. Vous savez, il y a des enfants qui sont malheureusement suicidés ou qui ont vécu des périodes
très
même avant les réseaux sociaux, on entendra d'ailleurs un garçon qui a vécu ça pendant une douzaine d'années.
Mais je pense que les réseaux sociaux, ça amplifie quand même énormément le problème parce que ça touche en permanence et il n'y a pas de pare-feu. Il n'y a rien qui protège l'enfant.
Et il va falloir peut-être commencer à se poser les bonnes questions autour des réseaux sociaux. On va poursuivre cette discussion parce qu'elle est importante et qu'on vient à peine de l'entamer. Mais il est 23h, on retrouve Isabelle Piboulot pour l'essentiel de l'actu.
Emmanuel Macron persiste. La réforme des retraites est indispensable quand on se compare en Europe. Une déclaration à la veille de la deuxième journée de manifestation intersyndicale. En conférence de presse à La Haye, le chef de l'État a assuré soutenir les propos d'Elisabeth Borne. La première ministre avait déclaré hier que le report de l'âge de départ n'était plus négociable. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis ne donneront pas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine. Refus catégorique de Joe Biden, alors que les dirigeants à Kiev en réclamaient. Par ailleurs, sans préciser la date, le président américain a annoncé qu'il se rendrait prochainement en Pologne, acteur important de la campagne d'aide occidentale à l'Ukraine. Et puis, attaque au couteau à Bruxelles. 3 blessés sont à déplorer, dont un grave. L'agression est survenue vers 18h dans la station de métro Schuman du quartier des institutions européennes. L'assaillant a été interpellé rapidement par la police belge. Les motivations de ce dernier ne sont pas encore connues.
On reste donc autour du sujet de Lucas, ce collégien de 13 ans qui s'est pendu chez lui le 7 janvier. Ses parents, qui continuaient évidemment d'affirmer qu'il était victime de brimades répétées de la part de quelques camarades de classe en raison de son homosexualité. Sa maman, que l'on vient d'entendre, qui dit l'école aurait dû faire plus. Nous avons signalé à plusieurs reprises que ça n'allait pas. Qui ? Les profs ? Les surveillants ? Le principal ? Personne ne voit, ne comprend ce qui se passe. Johan et Karima.
Mais non, manifestement, parce que...
Mais comment est-ce possible?
Mais sans doute, d'abord, sont-ils submergés par ces cas qui sont quand même très nombreux. Ça n'est pas anecdotique. 10% des élèves. Alors, vous vous rendez compte, il y a des collèges où il y a 5, 6, 700 élèves.
C'est vrai.
Donc, vous vous rendez compte, c'est énorme de gérer tout cela. Donc, effectivement, et puis ce qui se passe dans la cour de récréation n'est pas toujours visible de la part des enseignants, de la part de la direction. Donc, cette maman avait alerté. Donc, il y a manifestement eu une faille, mais sans doute... l'équipe pédagogique n'est-elle pas suffisamment formée et n'a-t-elle pas les bons réflexes pour faire face à cela ? Alors moi, ça m'a rappelé les discours de certains candidats à l'élection présidentielle qui nous disaient, par exemple, que les associations n'avaient pas leur place au sein des établissements scolaires, et notamment les associations LGBT. Eh bien, moi, je crois qu'elles y ont plus que jamais leur place, notamment quand on voit cela, vous comprenez ? Parce que des élèves qui sont harcelés en raison de leur orientation sexuelle, il y en a des milliers et même des dizaines de milliers.
Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà avoir un encadrement compétent et qui a les bons réflexes
Laissez-moi terminer, vous réagirez après.
Est-ce qu'il ne faut pas d'abord, dans un premier temps, avoir des personnels compétents plutôt que d'y ajouter
mais qui est-ce qui est compétent pour faire de la prévention? Qui est-ce qui sait très bien faire cela? Eh bien, ce sont les associations, parce qu'elles le font depuis très longtemps. Et on voit, quand elles interviennent auprès des élèves, ça fonctionne. On voit qu'après ce genre d'intervention de la part des associations, les élèves ont changé de discours. Ils sont très sensibles à cela. Donc, on sait que ça fonctionne. Donc, à l'évidence, je ne dis pas qu'elles doivent faire tout le travail, mais je pense qu'elles y ont complètement leur place et qu'elles doivent faire une partie de ce travail-là, parce qu'elles le font très bien et c'est incontestable.
Alors, la réponse d'Alexandre et Jean-Sébastien qu'on n'a pas encore entendu.
Johan, pourquoi c'est incontestable? Je ne sais pas. Vous avez dit vous-même avant que tout cela augmentait ces dernières années. Donc je ne sais pas si elles font un travail formidable, mais depuis
qu'elles le font, parce qu'elles ne le font pas partout, hélas, par manque de moyens, parce qu'elles interviennent dans peu d'établissements.
Moi, je crois que vous leurrez un peu, parce que je crois que plus il y a de discours sur le vivre ensemble, ça apparaît comme de la moraline. C'est pas forcément comme ça que on convainc les conformismes adolescents. Je pense qu'il y a une part d'encadrement et d'autorité en plus. Je pense que, je disais, c'est une période, l'adolescence, où on est extrêmement conformiste, et ça peut être les homosexuels, mais ça peut être les petits gros, ceux qui ont un bégaiement, ceux qui se comportent différemment. Donc je suis pas sûr que, encore une fois, les associations régleraient tout.
Associations ou témoignages, des jeunes qui avaient
ça, qui a le recul. Concrètement, il était harcelé, il avait besoin d'être protégé, en réalité. Il n'y avait pas besoin d'un discours moralisateur, et enfin, je pense que
la lutte contre l'homophobie, c'est pas moralisateur. C'est pas de la morale. On parle pas de morale.
La lutte contre l'homophobie, ça se fait d'abord par une sévérité, par une autorité, par les
respects. Par des barrières.
Mais qui met ces barrières là? Et ensuite, je pense que ça se fait aussi par l'instruction. Et je suis pas sûr que les associations instruisent les élèves et les rendent finalement plus tolérants. Je pense que le meilleur moyen de rendre un élève tolérant, sensible, intelligent, c'est par la transmission des connaissances et par l'éducation. La réelle éducation passe par l'instruction, à mon avis, beaucoup plus que par un travail associatif qui, du reste, n'existait pas avant
l'école. Il n'a pas compris, en fait. L'associatif, c'est pour les victimes. C'est pour que les victimes puissent aussi aller...
Il y a une assistante sociale. Moi, je pense qu'il y a une assistante sociale. Il y a
une assistante sociale, malheureusement.
En plus, vous dites qu'avant, il n'y avait pas de harcèlement. C'est aberrant d'entendre quelque chose comme ça. Avant, il n'y avait pas de harcèlement.
Je n'ai pas dit qu'avant, il n'y avait pas de harcèlement.
Vous venez de le dire à l'instant. C'est quand même aberrant d'entendre ça, pardon.
Ça a toujours existé. Moi, j'ai connu des gamins harcelés quand j'étais au collège.
Ça a toujours existé parce que, comme je disais, c'est un âge conformiste qui n'aime pas la différence. Mais les cas de suicide, l'ampleur que ça prend, c'est exponentiel. Donc, on voit bien que c'est pas le travail associatif.
Disons que c'est un fléau qui touche plus d'enfants qu'on ne le croit, même si tous, heureusement, ne vont pas jusqu'au suicide. Vous parliez d'association ou de témoignage. Écoutez Hugo. Hugo, c'était un jeune homme qu'on a pu avoir aujourd'hui dans nos émissions sur CNews. Pendant sa scolarité, il a été quotidiennement victime de harcèlement. Aujourd'hui, il a créé une association qui porte son nom. Il souhaite replacer la protection de la jeunesse au cœur de la prochaine élection présidentielle. Écoutez-le, c'était tout à l'heure chez Laurence Ferrari.
Ça a duré de 6 à 18 ans, donc oui, ça a été assez long, hein. Ça a duré près de 12 ans, le harcèlement scolaire. Moi, ça a pris plusieurs formes, hein. Ça a commencé par des insultes, parce que j'étais le bigleux de service, parce que j'étais le gros de la classe, et puis j'étais l'intello de service, donc c'était vraiment le stéréotype clé. Et puis, en passant au collège, ça s'est plutôt manifesté, en plus de cette violence verbale, ça s'est manifesté sous forme de violence physique. Et j'ai eu cette chance-là, heureusement, d'être préservé avant, mais le cyberharcèlement a été sur la fin de ma scolarité, de la 3e jusqu'à fin de lycée, une vraie problématique à laquelle j'ai été confronté sans être pour autant moi-même au début, moi-même sur ces plateformes. C'est là aussi le danger des réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas forcément sur ces plateformes, là c'était Facebook à l'époque, et on peut être victime de cyberharcèlement.
C'est vrai qu'on sait que les enfants à l'école, tiens Jean-Sébastien, pardon, qu'on n'a pas entendu encore sur ce sujet, les enfants sont d'une grande cruauté. C'est là que les parents aussi doivent intervenir. Par quel biais on commence à essayer de maîtriser ce phénomène ? Par une meilleure formation des encadrants, par des associations, par des gens qui viennent témoigner, par des parents qui prennent mieux en charge leurs enfants à cette époque-là de leur âge.
Les solutions peuvent se cumuler. Moi, je crois qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Valérie tout à l'heure. On sous-estime, bien sûr, le harcèlement a existé avant les réseaux sociaux, mais on sous-estime totalement l'effet pervers, toxique que les réseaux sociaux peuvent avoir. Et regardez, le témoignage, il est très intéressant. Ce que vient de dire ce jeune homme, c'est que lui-même n'était pas sur les réseaux sociaux.
Mais il était victime tout de même.
Échapper, ouais. Parce qu'il peut y avoir des cabales qui se créent contre vous. Alors après, effectivement, l'esprit de conformisme, l'esprit de groupe, ça a toujours existé.
Mais qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ? Il n'y a pas de maîtrise. On ne peut rien faire.
Peut-être qu'il faut avoir une réflexion de la part des parents sur l'âge auquel
les enfants... Oui, donc
c'est pas les réseaux sociaux qu'on peut contraindre, mais les enfants par rapport à leur...
Mais comme pour tout, hein,
consommation de ces réseaux.
Un smartphone, c'est jamais qu'un instrument, c'est comme une arme. Tant que personne décide de tirer, ça fait rien.
C'est terrible de comparer les réseaux sociaux à une arme.
Parce que concrètement, c'est le cas. Vous parliez des chiffres. Oui, les chiffres, le suicide, malheureusement, des adolescents sont en train de remonter. Figurez-vous que c'est même plus inquiétant que ça. C'est qu'ils avaient baissé pendant le Covid, quand les enfants n'étaient pas scolarisés, et qu'ils remontent en flèche depuis qu'il y a retour en cours. Ce qui montre bien que cette question du harcèlement, elle est vertigineuse. Et sur la question des associations, moi, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Je pense que ça peut être très utile, effectivement, qu'il y ait des associations qui viennent faire un travail de prévention sur l'homophobie, notamment. Il y a eu des campagnes aux États-Unis qui ont marché. Ils appelaient ça « It gets better ». Pour dire ça va en s'arrangeant, ne vous inquiétez pas, parce qu'effectivement, quand vous êtes un gamin à l'école, on peut s'en prendre à vous à cause de votre sexualité, mais vous pouvez grandir, vous en sortir et regarder, ça va mieux et ça a marché. Je crois qu'il faut simplement pas confondre ça avec des associations qui viendraient pour faire la promotion d'études de genre ou autre chose. Ce sont deux registres totalement séparés. Il peut y avoir une vigilance de l'éducation nationale de ce point de vue-là.
Vivre en permanence sous le regard des autres, ce qu'imposent désormais les réseaux sociaux, sous le regard des autres et des autres groupes, ça rend complètement fou, en fait. C'est terrible. On a l'impression qu'il y a, il y a rien à faire. Parce que les parents, on parle de restreindre, mais les parents ont du mal à supprimer ces appareils. Vos ados, ils sont accros. Vous allez créer une crise à la maison sans précédent quasiment si vous retirez le réseau social à votre enfant. Alors, vous avez envie d'éviter d'en passer par là. Enfin, c'est pas si simple, hein, dans le quotidien des familles, je pense.
Non, c'est pas si simple, mais il y a quand même des choses à faire. C'est-à-dire quand ce sont, par exemple, des élèves d'une classe qui se mettent en groupe et qui se mettent à harceler quelqu'un sur les réseaux sociaux, je veux dire, ils sont facilement identifiables. Ça peut se retrouver à l'école et ils peuvent être convoqués. Les parents peuvent être convoqués. Je veux dire, il y a une prise en charge aussi. Non, moi, je pense que...
Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça n'a pas été le cas sur ce jeune Lucas. Pourquoi? Alors que la mère a signalé plusieurs fois au collège, pourquoi ces gamins n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été empêchés de le harceler si c'était connu et qu'ils étaient identifiés?
Sur le cas en particulier, on ne connaît pas tous les détails.
Non, l'enquête est en cours, bien sûr.
Exactement. Donc, c'est dur de se prononcer là, sur tous les détails de cette enquête en particulier, mais sur le harcèlement scolaire, l'intimidation, moi, je pense que ça doit être à chaque année une priorité dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a les parents, on le sait, mais les parents, on ne peut pas contrôler partout tout ce qui se fait. Mais à l'école, dès le départ, à chaque rentrée scolaire, le message doit être clair de la part de la direction, des professeurs, sur la question, effectivement, LGBT, si c'est sur la question... on va dire, bon, grossophobie, ou enfin, n'importe quelle différence, c'est ça que j'allais dire, n'importe quelle différence.
C'est pour
différence.
Ça qu'il faut avoir un discours. À l'adolescence, n'importe quel signe distinctif que vous mettez en marche
les point, choses, parce qu'il y en a beaucoup des phobies.
Mais le point, je pense qu'à la base, pour une école, les directeurs, les directrices, les professeurs, déjà dès le début de l'année, le message doit être assez
mais
clair.
Je crois qu'il
et il y a la prévention et il y a aussi ensuite l'intervention, l'action, parce que ça a été prouvé effectivement sur la question.
C'est bien ce que je dis. Moi, je suis pas contre un discours effectivement de respect des uns et des autres, mais on en est gavé depuis des années. Enfin, croyez-moi, les directeurs d'établissement, les profs.
Si on en était gavé, je suis pas sûr que Lucas aurait fini pendu dans sa chambre.
Le fond sur le vivre ensemble.
Si nos gamins, comme vous dites, étaient gavés de discours de tolérance, je pense qu'on n'aurait pas retrouvé.
Je crois que.
Je suis désolé, Julien, mais je
pense qu'il n'est pas du tout prouvé qu'il n'a pas été gavé de ce type de discours-là. Et maintenant, à un moment donné, il y a deux pieds dans une politique. Il y a une politique, effectivement, d'éducation à la tolérance, de respect, qui, à mon avis, passe, je le dis encore une fois, par l'instruction. On a suffisamment de grands textes dans la littérature de Victor Hugo à autres pour faire passer un certain nombre de messages sans tout faire venir des associations militantes à l'école.
Et ensuite, il y a Victor Hugo que vous faites comprendre
à
un gamin.
Le bossu de Notre-Dame, je pense que ça apprend plus que n'importe quelle association LGBT à l'école. Et ensuite, il y a un deuxième pied, à mon avis.
Vous savez, je sais où le bas blesse pour vous. C'est le mot LGBT qui vous dérange.
Non, mais
en fait, on va dire des associations homosexuelles.
C'est des associations militantes.
Parce que derrière LGBT, je sais ce que vous mettez. Vous mettez une idéologie. Vous mettez une idéologie un peu woke derrière LGBT.
Je mets ça, mais encore une fois, je pense que le bas ne blesse pas sur les discours, parce qu'on en a beaucoup des discours, blesse sur l'encadrement et la fermeté et l'autorité. Il y a un moment où il faut avoir un discours de respect, mais il y a aussi un moment où il faut se faire respecter par l'ordre. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui à l'école, c'est l'ordre et c'est pas les discours bien pensants.
Juste la question des associations, mais déjà le message de la direction de l'école doit être ferme si jamais il y a des questions d'intimidation, de harcèlement.
Juste un petit mot, ça doit être dans
l'éducation nationale, ça doit faire partie du programme. À chaque année, ça revient. À chaque année, il y a des jeunes qui vont à l'école et je lisais des choses sur des études. Écoutez, sur le harcèlement scolaire, l'impact, le stress que ça fait sur le cerveau, le stress psychosocial sur le long terme, pouvait avoir des conséquences même permanentes.
Des émotions, sur la mémoire, sur beaucoup de choses, même sur des
conséquences économiques plus tard, parce que ça affecte l'estime de soi. C'est énorme. Ça empêche les gens d'avoir des relations même normales avec d'autres personnes après. Ils ont été bloqués même dans le développement. Donc, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, cette question du harcèlement scolaire. Ça fait partie des priorités, je pense.
Pour revenir à la mère de Lucas, je pense qu'il n'y a pas une directrice d'école qui ne va pas être sensible à une mère qui dit « mon fils ne va pas bien ». Occupez-vous de lui. Simplement, il n'y a pas la compétence dans l'école.
Moi, je ne suis pas dans l'enquête. Je vois juste une mère qui dit j'ai alerté ce collège plusieurs fois.
Terminer le raisonnement.
Il faut juste qu'il y ait une
compétence. On appelle ça association, qu'on appelle ça écoute, qu'on appelle ça une veille scolaire, qu'on appelle ça ce qu'on veut.
Je veux juste vous dire, elle s'est plainte, elle est allée dénoncer, elle est allée informer. Donc,
ce n'est pas la directrice.
À cette étape-ci,
bien sûr que si c'est la directrice, vous n'avez pas besoin, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin d'être une association, qu'elle soit LGBT, homosexuelle, de défense de qui vous voulez, pour comprendre quand vous êtes un professeur ou un directeur d'établissement, que quand une maman vient vous voir, mon gamin se fait harceler parce qu'il est homosexuel, vous avez des gamins qui toute la journée
le harcèle, le tape dessus, l'insulte, etc. Je n'ai pas besoin d'être une association homosexuelle ou gay friendly pour dire il y a un problème, dois agir en tant que responsable éducatif.
J'essaie juste.
Alors des associations, c'est bien, c'est encore mieux, mais le responsable. Mais non, mais parce que Allez-y.
Non, mais la directrice de l'école, c'est comme un chef d'entreprise. Elle dirige des gens qui font des choses. Aujourd'hui, à l'école, ce n'est la fonction de personne.
Non, mais faire respecter l'autorité,
C'est insupportable quand même au bout de deux secondes.
Faire respecter l'autorité, c'est la fonction d'un directeur d'école.
Ce n'est la fonction de personne aujourd'hui de s'occuper de ce genre de sujet.
Ah, donc c'est normal alors.
C'est incroyable que vous n'êtes pas capable d'écouter jusqu'au bout.
Mais si, je vous entends. C'est juste que vous faites quatre fois de suite la même phrase. J'ai compris.
On a besoin d'avoir quelqu'un de responsable de ce sujet.
Je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord.
Entre les surveillants, les professeurs, les responsables, les CPE,
je pense qu'il y a des gens qui sont capables de voir.
Quand quelqu'un se fait taper dans la cour de récréation, il faut un dispositif spécial pour.
Mais les profs, ils sont même pas capables.
On les laisse se taper dessus sur la cour.
Les profs, ils sont pas capables de se faire respecter pendant leur cours.
Mais certains le sont. Mais non, certains le sont. Valérie, le problème, certains profs le sont évidemment comme ils l'ont toujours été. Le sujet, c'est le défaut de l'institution. L'autorité n'est plus assumée. Si un directeur d'établissement n'a plus d'autorité, tout simplement on va voir les élèves en question et leur dit maintenant vous arrêtez sinon c'est vous qui serez expulsés.
S'il vous plaît. Là où on se comprend pas, c'est que un adulte, où qu'il soit, peut voir un enfant en détresse. Voilà. Après, vous êtes le directeur d'établissement. Je finis juste ma phrase. Vous appelez une association, vous appelez machin. Je pense qu'un adulte dans le système éducatif est capable de voir un enfant en détresse, surtout si la mère vient dire mon enfant est en détresse. Oui. Après, les moyens pour parvenir à l'aider, etc., par des associations, par telle ou telle personne extérieure. Ok. Mais juste, vous voyez la détresse d'un enfant quand on vous la signale.
Vous avez un médecin du travail que vous pouvez aller voir si vous n'allez pas bien.
Mais mon patron, s'il n'est pas capable de me soigner, est capable de voir si je vais mal ou si je vais bien. Voilà,
non,
ça
sert. Pas forcément.
Et puis un gamin qui se fait taper dans la cour, c'est pas forcément raisonnable.
Bref, tout dernier mot, s'il vous plaît. Vous avez quatre adolescents, donc de 13 ans, 2 ans, 2 garçons, 2 filles qui vont être jugés pour harcèlement ayant conduit au suicide. Dernière question, quelles sanctions pour ces enfants? La mère elle-même, qu'on a entendue, ne veut pas vraiment les condamner. Qu'est-ce qu'on fait avec des gamins de 13 ans qui...
À 13 ans, qu'est-ce que vous voulez faire?
J'en sais rien.
Ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent se réinsérer, j'allais dire, de manière quasi normale dans la société. Ça semble
leur
être possible.
Leur donner des travaux d'utilité publique pendant un mois, par
mais
exemple.
Mais si vous voulez, on ne va pas mettre en prison, enfin, me semble-t-il. D'ailleurs, la mère elle-même le dit.
Non, mais
encore une fois, pardon.
Ce que dit
la mère, me semble-t-il, c'est qu'ils aillent faire de la prévention dans les écoles avec des associations.
Ouais, c'est une très bonne idée.
C'est un souhait de la mère elle-même qui dit si mon fils avait entendu ce genre de témoignage, si les agresseurs de mon fils avaient entendu des témoignages comme ceux qu'ils seront peut-être en mesure de livrer, peut-être que ce qui s'est produit ne serait pas arrivé.
Ce qui est important de dire, c'est que la loi, justement, a changé. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. La justice des mineurs est plus rapide. Là, ils seront convoqués dès le mois d'avril. Ouais, c'est pas dans 40 000 ans, puisqu'on dit suffisamment souvent que la justice est lente. Là, les gamins en question, enfin, les adolescents en question, ça va être dès le mois d'avril. Et derrière, il y a une période, en quelque sorte, de mise à l'épreuve qui peut durer entre 6 et 9 mois. Donc, ils passent une première fois devant les magistrats, là, au mois d'avril. Et ensuite, en fonction, il y a un examen qui sera fait en regardant les parents, leur comportement, est-ce qu'ils ont compris, etc. Et la réalité de la peine, elle sera décidée au bout de 6 à 9 mois. Et pour répondre à votre question, il peut y avoir des amendes très fortes et des peines de prison qui sont prévues, y compris pour
des... Des peines de prison pour des gamins de 13 ans.
Mais tout dépend de la réalité.
Mais je me pose la question.
Mais Julien, là, on ne peut pas parler de ce cas spécifique puisqu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Tout n'est pas
équivalent. Est-ce que d'une manière générale, pour adolescent, la prison...
Le drame est terrible, évidemment, par l'impact que ça a eu sur le jeune.
Mais l'enquête est ouverte pour harcèlement.
Harcèlement ayant entraîné un suicide.
Et ça, la peine prévue, ça peut être de la prison et des
armes. En tout cas, c'est un sujet qui fait énormément réagir, que vous soyez parent d'élève ou pas. C'est une situation... insoutenable pour cette mère de famille et une histoire abominable.
Non, je disais simplement, là, il y a eu suicide, donc c'est trop tard d'une certaine manière. On verra ce que fait la justice. Peut-être qu'il faut des peines d'enfermement. Mais avant, ces élèves-là auraient dû sans doute être exclus de l'établissement. Quand j'entends il faut un référent ou je ne sais quoi, je pense que quand on persécute
un élève, eh bien, il faut des sanctions. Et j'aimerais savoir s'il y a eu des sanctions. Bah, je pense qu'elle a alerté. Et peut-être qu'elle ne savait pas, mais à ce moment-là, c'est au directeur d'établissement ou au responsable dans l'établissement de faire l'enquête.
Parce que vous le sentez, c'est ça le pire, c'est que le harcelé se sent coupable, honteux et a peur de briser le silence. Parce que vous devenez la balance qui a dénoncé
les camarades. Allez, qui harcelait.
On va changer de sujet. Chers amis, on change de sujet avec les premières fuites, parce que c'est une affaire là aussi qui nous a tenus en haleine sur plusieurs épisodes. Eh bien, les premières fuites des conclusions de l'audit de la Fédération française de football sont tombées. Elles sont très claires. Elles sont très claires. C'est vrai que Valérie était sur le dossier.
C'est plus
il n'y a pas de. On ne va pas tergiverser. Hein. Le président Noël Le Graët, je cite donc les premières fuites de cet audit qui sera bientôt diffusé. Le président n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer la Fédération française de football, compte tenu notamment de son comportement envers les femmes. Ce rapport provisoire de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, diligenté par le ministère des Sports à l'automne dernier, constate par ailleurs que la politique de l'instance à propos des violences sexistes et sexuelles n'est ni efficace ni efficiente. Les dirigeants de la Fédé ont jusqu'au 13 février donc, pour prendre connaissance de ces conclusions et y répondre avant publication du rapport définitif. Ou contradictoire. Un petit tour de table, 5-6 minutes. On avait du mal à imaginer, Valérie, donc cette enquête, vous l'avez bien suivie, que l'audit soit favorable à Noël Le Graët après toutes les infos qui sont passées, tous les témoignages qui sont passés à son sujet. J'ai envie de dire chronique d'une chute annoncée.
Chronique d'une chute annoncée. Alors il faut quand même mettre à son crédit deux passages.
À quel crédit
disent...
De Noël Le Graët ?
Bah, ils disent que la fédération sportive n'a jamais été aussi efficace et qu'elle n'a jamais été aussi bien gérée quand même. Donc il faut quand même.
Non, alors
financièrement.
Voilà, exactement.
Sportivement. Mais voilà. Ce qui nous intéresse ce soir.
Non, je suis d'accord, mais il faut quand même dire pour être honnête.
Voilà. Bah, qu'il ait bien géré la fédération financièrement, c'est une chose. Après qu'il ait harcelé les salariés et eu des attitudes abominables.
La partie noire de l'histoire, c'est que non seulement lui, mais aussi sa directrice générale, apparemment, se sont extrêmement mal comportés, alors de façon différente, lui envers les femmes et elle avec, elle a l'air d'être d'une autorité, elle a l'air d'être absolument pas sympathique du tout, cette femme-là, et que donc l'ambiance était absolument pourrie.
Alors, c'est pas pour cause de non-sympathie qu'elle serait...
Non, je pense qu'elle a été, elle a abusé de son autorité, de son pouvoir, elle a été... On n'a pas encore les détails, mais elle a pas rempli sa fonction.
Le rapport parle d'un management brutal, mais qui ne relève pas du harcèlement.
Oui, voilà, exactement.
C'est important de le dire.
Mise à pied à titre conservatoire, la directrice générale de FFF, Florence Ardouin, est visée donc elle également par les inspecteurs pour son management, qui écrivent-ils peut être qualifié de brutal, mais pas de harcelant, contrairement donc à Noël Le Graët, qui est plus visé par l'audit.
Donc ce qu'on retient de cet audit, c'est qu'il y avait une ambiance absolument pourrie du salon de plafond.
C'est-à-dire qu'on savait déjà tout ce qui se passait.
Dans cet endroit, on savait tout ce qui se passait. On savait qu'il se comportait de façon odieuse vis-à-vis des femmes et qu'elle se comportait de façon odieuse, point. Donc apparemment, il n'aurait plus ni l'un ni l'autre la légitimité de diriger la Fédération française. C'est assez clair.
Alors Alexandre, qui a défendu Noël Le Graët. Est-ce que vous allez être capable encore aujourd'hui ?
Je sais que Noël Le Graët n'a pas d'amis, mais j'aime pas les lynchages.
C'est pas qu'il n'a pas d'amis, c'est qu'il a eu un comportement minable et qu'il est dénoncé
encore une fois
aujourd'hui.
D'accord. Mais moi, ce que je lis, c'est dans le rapport, il parle d'une attitude problématique vis-à-vis des femmes qui peut être qualifiée au minimum de sexiste. Donc on ne parle pas de harcèlement et un peu plus loin, il parle de blagues sexistes, etc. Donc,
à une agent de joueur, venez boire la quatrième bouteille de champagne à la maison avec moi et peut-être que vos dossiers seront facilités. Pardon, mais je suis pas certain que ce soit acceptable. Je n'évoque qu'un élément qui est sorti au grand jour. Je ne suis pas dans les arcanes de la Fédé, vous l'imaginez bien.
Non, mais je n'ai pas de sympathie. On va croire que j'ai une sympathie particulière pour
le champagne.
Mais j'ai l'impression quand même que dans cette histoire, vous balayez le fait que sportivement et financièrement, il est bien géré. La fédération. Julien le balai. Ça compte quand même. J'ai l'impression qu'on demande aujourd'hui à un certain nombre de gens qui ont une responsabilité d'être une forme de d'aseptisation.
Ah, vous êtes très en forme ce soir.
D'aseptisation des rapports humains. C'est ça la question d'être moderne, d'épouser le discours ambiant. Enfin, je pense vraiment de ce que je lis.
que Noël Le Graët, ce n'est pas un homme de son époque et que c'est le principal procès qu'on lui fait. Quoi. Il a 80 ans.
En fait, le procès d'une époque.
Ah oui, c'est ça le problème. Ouais. A...
Désolé, mais je pense pas que tout le monde avait le même style de gestion non plus que M. Le Graët.
Non, j'entends, mais je vois d'autres joueurs. Par exemple, dans la fédération de handball. Il y a un problème de handball, il y a eu un problème de pédophilie, ce qui paraît quand même hautement plus grave que ce qu'on reproche à M. Le Graët. Dans d'autres, il y a des problèmes de détournement d'argent. Donc bon, il a l'âge de partir à la retraite.
Mais donc si on trouve quelqu'un qui fait pire, on a
des doigts. Non, je dis pas ça. Je dis qu'il a l'âge de partir à la retraite.
Pas mieux ou de pire, hein.
Je dis qu'il a l'âge de partir à la retraite, que je vais pas pleurer sur son sort, mais je dis que ça me paraît assez disproportionné, qu'il y a un côté bouc émissaire pour Noël Le Graët. Et d'ailleurs, le rapport dit que met en cause toute la gestion de la fédération.
C'est un panier de crabes, en fait, et une gestion absolument pourrie depuis des années en termes de management, même si cette fédé, en effet, se porte bien grâce à une équipe de France, surtout, et un Didier Deschamps qui font des résultats, parce que Noël Le Graët, peut-être que c'est un bon gestionnaire, mais il n'est pas sur le terrain. C'est pas lui qui est champion du monde. Faut pas non plus dire tout et son contraire. Johan, pardon.
Je dois dire que ce soir, Alexandre Devecchio me laisse un peu sans voix, sincèrement.
Pardon d'apporter de la contradiction.
Parce que vous êtes finalement toujours du mauvais côté. Ça interpelle.
Il
quand même.
Il est du côté qu'il choisit.
C'est intéressant votre phrase parce qu'il y aura un côté du bien que vous représenterez. Moi, je serai du côté du mal.
Mais non, mais alors là, particulièrement, pardon, mais encore une fois, vous dites, mais attends, rendez-vous compte, Noël Le Graët, il est formidable. Il a bien géré.
J'ai pas dit qu'il était formidable.
Attendez, pardon. Vous venez de dire, il a bien géré la fédération. Regardez, économiquement. Et tout, c'est quand même ça qui est le plus important, d'accord. Donc, si on gère bien une fédération, on a le droit de faire des blagues dégueulasses avec des femmes, on a le droit manifestement d'appliquer une sorte de promotion canapé, c'est ce que vous défendez. Après tout, si les résultats sont là, eh bien oui, on a le droit de se comporter comme ça. On pardonne, regardez, il a tellement bien réussi.
Mais vous caricaturez légèrement mes propos.
Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Enfin, c'est extrêmement grave, c'est précisément ce que vous avez dit, c'est gravissime ce que vous dites, pardon.
Je dis que gérer des équipes dans le management, il y a des égos, il y a des choses.
Mais on parle de promotion canapé et de blagues dégueulasses sur les femmes.
On parle de blagues sexistes, promotion canapé. Il n'y a pas eu de promotion.
Alexandre, si la personne qui est victime le vit mal et traumatisé dans son existence et que ça a un impact sur son quotidien et sa vie privée, en fait, peu importe ce que vous, ce que moi, ce que Johan en pense, en fait. Si chez les personnes qui ont été visées, ça a eu des préjudices, c'est qu'il y a un problème.
Là encore, il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas eu de plainte. Donc les choses, il y a eu un audit.
Parce qu'il y a une omerta.
Une forme de
scandale. Mais c'est encore une fois,
je défends pas Noël Le Graët, mais d'une manière générale, aujourd'hui, les dirigeants, par exemple, les dirigeants politiques, parce que là, c'est la ministre des Sports qui a commandé un audit, etc. Je constate qu'on est de plus en plus, de manière générale, dans la transparence, dans l'exemplarité du comportement, et qu'on a des dirigeants politiques de moins en moins efficaces. Et de temps en temps, j'avoue, c'est peut-être pas moral, ça va peut-être déplaire au camp du bien qui est en face de moi, mais je préfère les gens efficaces quand ils ont à gérer un certain nombre de dossiers.
Donc ça fait un gros désaccord entre nous, c'est certain.
Parce que vous et moi, si on nous enregistre à la pause, on fait tous des blagues, on a tous des moments où... Non mais c'est vrai, c'est la phrase de Richelieu, donnez-moi quatre mots et je vous fais pendre à exécuter un homme. Alors je ne sais pas si ça s'applique à Noël Le Graët, mais je trouve que ça s'applique de plus en plus aujourd'hui à la société, que c'est une manière de faire tomber les hommes et les femmes, et que moi j'aime pas
cette manière. Il y a une différence entre faire une vanne pendant la pub entre deux personnes et être le président utiliser son pouvoir.
En fait,
pouvoir.
Julien, je ne sais pas.
En fait, quand vous faites une blague, vous n'utilisez pas le pouvoir que vous avez.
Non, mais je suis d'accord.
C'est ça la différence.
Mais vu que je suis pas dans les coulisses de cette institution et que je sais qu'aujourd'hui il y a un tel politiquement correct que faire une blague peut te conduire à la mort sociale, je me méfie. Voilà, c'est tout.
Vous dire, moi,
des audits commandés par le gouvernement.
Ce qui est presque le plus grave, et on va conclure là-dessus, Jean-Sébastien, un petit mot si vous le voulez bien. Ce qui est presque le plus grave dans cette affaire, c'est qu'on ne serait pas en train d'avoir cette conversation, on ne serait pas en train de se déchirer les uns les autres si Noël Le Graët n'avait pas juste dit Zidane,
j'avais pas bu un dimanche.
Ah oui, c'est juste ça en fait. Moi je trouve que c'est ça, c'est abject.
Tous les deux, Julien.
Non, c'était dans un petit milieu. C'était dans un petit milieu. Il y avait l'enquête de SoFoot. Il y avait l'enquête de SoFoot qu'on doit saluer parce que ça a été parmi les premiers à dévoiler tout ça. Ça en parlait un petit peu dans le milieu, mais il y avait une omerta générale. Et s'il n'y avait pas eu le coup de Zidane, qui finalement le moins grave dans toute cette histoire, on serait pas en train de faire ce tour de table. 30 secondes pour
l'audit avait été recommandé avant, mais je crois que ce qui protège, c'est finalement ce que l'audit constate, c'est la réussite financière. Alors c'est absurde, mais effectivement, le monde fonctionne comme ça. Je crois qu'il y a des tas de comportements de Noël Le Graët qui effectivement étaient tous plus détestables les uns que les autres. C'est intéressant de voir qu'à côté de lui, quand même, il y avait une directrice générale et qu'elle est aussi l'objet des critiques qu'il y a dans l'audit, ce qui complexifie quand même un peu la situation, parce qu'elle était présente dans les réunions, y compris dans toutes les réunions où il y avait des blagues sexistes. Donc ça montre bien que la réalité humaine...
Toujours une femme qui est complice.
Oui, mais justement, mais ça montre bien que la réalité humaine, elle est complexe. Et précisément, j'en viens au terme, au management, parce que parfois, pour le coup, il y a des chasses aux sorcières, parce que je vous assure que dès que vous êtes manager, on ne peut pas à la fois dire il faut un principe d'autorité, et oui, il y a des gens qui ne supportent pas l'autorité, et considérer que tout est brutal, il y a un moment, c'est quand même profondément absurde.
Allez, il nous reste un dernier thème à évoquer, mais d'abord à 23h30 pile, Isabelle Piboulot, encore un rappel de l'actualité avec vous.
À Nanterre, 5 personnes jugées pour avoir vendu près de 11 000 faux passes sanitaires. Elles ont agi entre mai et novembre 2021 en région parisienne, dans le Rhône et l'Ain, pour une recette estimée à près de 400 000 euros. Elles encourent jusqu'à 10 ans de prison. La décision du tribunal correctionnel est attendue mercredi. En Espagne, l'auteur présumé de l'attaque contre deux églises d'Algeciras a été placé en détention provisoire. Radicalisé en un mois, la justice espagnole affirme que le Marocain de 25 ans a agi de façon consciente et dans le cadre d'une idéologie djihadiste. Mercredi, un sacristain a été tué et un prêtre grièvement blessé dans une attaque à la machette. Et puis au nord-ouest du Pakistan, un attentat présumé est survenu dans une mosquée du quartier général de la police de Peshawar. Au moins 61 morts et près de 150 blessés sont à déplorer. Il s'agit pour l'essentiel de policiers. L'explosion s'est produite ce matin à l'heure de la prière. Le gouvernement a placé l'ensemble du pays sous haute alerte.
Merci beaucoup Isabelle. Je voudrais qu'on voit à présent cette image, ce braquage très impressionnant qui a eu lieu en plein Paris ce week-end. Un barbier attaqué dans son salon de coiffure pour sa montre, qui d'ailleurs était une fausse montre pour la petite histoire. Ça s'est passé samedi soir dans le 15e arrondissement. Heureusement pour ce commerçant, un voisin a vu les agresseurs préparer leur braquage. Il a pu prévenir la police et filmer... Qu'est-ce que vous faites ?
Elle prévient la police.
J'ai dit youpi parce qu'il y a des gens qui réagissent.
Ah oui, il y a des gens qui réagissent. Ouais. Ils ont pu prévenir la police et filmer l'interpellation. Le barbier, sous le choc, a accepté de témoigner pour CNews. Regardez.
Le cauchemar de ce barbier n'aura duré que quelques secondes. Un braquage d'une hyperviolence pour une fausse montre de luxe. Le gérant de ce salon n'en revient toujours pas.
Il m'a posé là, il y a un caf là parce qu'il y a la toilette dedans et tout. Il m'a demandé directement, donne-moi votre montre. Je ne l'ai pas donné à la base. Après, il m'a tranglé derrière. Après, moi, j'ai pensé, sur moi, il y a un coton, je ne sais pas quoi dedans, et sur lui. Après, je lui ai donné la montre. Après, les flics, heureusement, ils ont rentré. D'un coup.
Et ce, grâce à la vigilance de plusieurs voisins, dont celui à l'origine de cette vidéo. Les policiers, prêts à intervenir, ont très vite maîtrisé et arrêté les trois individus pris en flagrant délit.
Trois jeunes qui ont essayé de pénétrer dans un immeuble du 15e arrondissement. Les voisins ont vu le mouvement qui a été provoqué. Ils ont réagi tout de suite, très vite, et à raison. Ils ont appelé le 17. Les policiers ont pu intervenir, faire fuir ces jeunes-là et ensuite les prendre en filature.
Dans ce quartier, décrit comme calme et paisible, les habitants craignent de voir s'installer la violence et l'insécurité. En 2022, les vols de montres de luxe ont augmenté de 31% en un an.
Oui, Valérie, qui levait la main avant même que j'aie pu lancer le sujet.
Non, mais c'est parce que souvent sur ce plateau, on parle
d'ailleurs, de gens. On en rit, mais c'est pas très drôle.
Qui sont attaqués, qui sont braqués, qui sont enlevés, qu'on enferme dans des coffres de voitures.
Parce qu'il y a des endroits en France qui échappent à des problématiques d'insécurité chronique aujourd'hui.
Dans les bus et tout ça. Et souvent, je pose la question en disant, mais si les gens réagissaient un petit peu plus, ça serait peut-être.
Oui, mais là, il y a réaction et il y a réaction. Ce voisin, il a très intelligemment réagi. C'est-à-dire qu'il a appelé la police. Il n'est pas allé faire la.
Non, mais il a réagi.
Le face à face avec des braqueurs.
Je me réjouis que le voisin ait réagi, en fait.
Écoutez Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police qui nous donne son analyse également de ce type de situation.
Ça se fait de plus en plus parce qu'effectivement, il y a des systèmes de surveillance un peu partout qui sont assez élaborés. Donc maintenant, les voyous, j'allais dire, vont vers des endroits un peu moins protégés. pour des petits larcins, en fait. Hein. On voit bien, ils sont prêts à tout pour une montre, pour un peu de liquide, voilà. Et spécial dédicace à Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est des collègues de la BAC qui ont interpellé, et c'est tout, j'allais dire, l'efficience de la BAC, c'est-à-dire qu'on est en civil, on peut faire des filoches, qu'on appelle ça, nous, c'est des filatures. Quand on va dans un endroit, un restaurant, un bar, dans la rue, on a toujours un peu un sens en alerte, et on est là pour détecter, même en repos, j'allais dire, des choses que d'autres personnes ne pourraient pas voir. Et là, c'est exactement ça, le rôle de la BAC, c'est ça, c'est du flagrant délit, et c'est toute l'utilité de la BAC, brigade anticriminalité, monsieur Mélenchon, voilà. Ça sert à ça, ça sert à rien de vouloir l'enlever, parce que c'est efficace et les gens en ont besoin.
C'est efficace, la BAC, n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon. Ouais, petite fléchette, comme on dit. Ouais. N'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon qui souhaitait supprimer ces brigades qui sont pourtant bien utiles, notamment sur les flagrants délits. Allez, une ou deux prises de parole, il nous reste 2 minutes.
Comme on dit, dans les dents. Hein, et ouais. Puis, c'est sûr que chez une certaine gauche, on va dire, la police tue, mais c'est bien de rappeler que la police défend aussi. Ouais. Et même si on peut se réjouir...
Enfin, elle défend surtout, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Et peut-être qu'on peut se réjouir. Oui, bon, il y a quelqu'un qui a appelé la police, mais une chance qu'effectivement, ils étaient là. Mais moi, par contre, je m'inquiète qu'il y ait ce genre de braquage, ce genre d'événement. Je veux dire, on parle quand même de quelqu'un, d'un barbier qui est à son travail.
Son commerce tranquille.
Okay. Exactement. Donc non, ça, je trouve ça extrêmement inquiétant, ce déplacement aussi dans des endroits où on a l'impression que c'est sécuritaire, mais non, il y a encore cette insécurité qui frappe.
Parce qu'il y a deux mineurs et un majeur qui sont les auteurs en garde à vue et probablement déférés dans les prochaines heures, on verra les infos. Deux mineurs et un majeur, encore cette désinhibition de la violence, ultra-violence chez les plus jeunes.
Parfois, malheureusement, quand on discute avec des policiers de la BAC, ce qui les désespère, eux, c'est que oui, ils peuvent interpeller des gens, mais qui sont très rapidement dehors, à commencer par les mineurs. Et il y a des cas très précis de mineurs qui agressent d'autres mineurs avec des couteaux. Enfin, l'effet du traumatisme d'avoir un couteau sur la gorge, ça peut quand même, c'est pas totalement anodin, et qui se retrouvent dehors aussitôt. Et il y a juste, soi-disant, un suivi. Il y a un vrai sujet sur la manière dont nous traitons, effectivement, les mineurs. Après, oui.
À part dire la justice doit faire preuve de fermeté, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur une affaire comme celle-là ?
Qu'il faudrait réussir à dissuader, justement, que la certitude de la peine arrive beaucoup plus tôt.
Oui, parce que ça se déplace, comme on disait, dans des endroits qui, habituellement, c'est plutôt tranquille. Moi, c'est ça que je trouve inquiétant.
Ce qui est fou, c'est, si j'ai bien compris cette histoire, c'est pour une...
C'est pas Noël Le Graët,
Oui, je suis pas du côté de tous les méchants, puisque là, je suis pas du côté des voleurs de montres. Du coup, ce qui est fou, c'est effectivement que le type est tranquille dans sa boutique et on vient lui piquer sa montre. Sa montre, effectivement...
C'est avec violence, avec
violence, ouais. Ce qui montre l'état du pays qui effectivement a besoin d'ordre dans bien des domaines. Et je suis pas sûr que les associations visant à rééduquer les uns et les autres suffiront à remettre de l'ordre dans ce pays.
Voilà ce que l'on pouvait dire en ce lundi soir dans Soir Info. Vous savez que je vais pas vous quitter comme ça. Je suis obligé de vous donner un peu le sourire, un peu de légèreté, comme chaque soir avant de rentrer l'antenne. Et vous connaissez la fable l'ours qui voulait faire du hula hoop? Vous la connaissez?
Non.
Ben c'est normal, je viens de l'inventer.
Ah d'accord.
Mais j'ai été inspiré par une histoire.
C'est une fable de SodaStream. Oui.
J'ai été inspiré par une histoire vraie qui a mal commencé mais qui s'est bien terminée. Regardez cette histoire et cette image. Ça se passe en Russie, non loin de Moscou. Regardez bien ce qu'il a. Le pauvre ours, cet ours de 400 kilos, il a bonne idée de jouer avec un énorme pneu. Sauf qu'il se l'est complètement coincé autour du ventre. Et bien, résultat, il ne pouvait plus bouger. Le pauvre était en danger même. Hein. Heureusement que les vétérinaires d'urgence sont arrivés. La scie sauteuse, la petite scie tranquillisante. La seringue tranquillisante, pardon, la scie circulaire. Le tour était joué en à peine 7 minutes pour sauver Fiodor. Fiodor, c'est son nom, comme un certain.
Julien, une chance que vous êtes là.
Fiodor, des amis de la culture. Citez-moi un grand Fiodor. Dostoïevski, pardonnez-moi. Il réfléchira deux fois, hein, notre ami Fiodor, avant de jouer avec un pneu la prochaine fois. Voilà. Comme quoi, l'image de fin est
toujours très importante.
Toujours très importante. Elle nous fait réfléchir.
Ouais. Oui,
voilà. Il a cru que c'était un anneau gastrique, je ne sais pas. Sacré Fiodor. Enfin. En tout cas, il est en bonne santé et ça nous fait plaisir. Merci, les amis, d'avoir été autour de la table pour discuter parfois avec.
passion.
Avec vivacité et vérité.
Il faut rappeler à notre
téléspectateur. Je dis toujours ce que je pense. Donc,
une fois que la caméra est éteinte, nous étreignons et nous aimons.
Nous vivons très bien ensemble avec
cette émission.
Je ne harcèle pas Johan Desailly après la pause.
L'heure des livres avec Anne Fulda, l'édition de la nuit dans une poignée de secondes. On se retrouvera demain pour Soir Info. Bonne nuit.
On fait du houla.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.